le conférencier est censé... Ça marche cette histoire-là ? Avec moi, les choses ne marchent jamais. Bon, alors, le conférencier se présente soi-même, l'éminent professeur Bettemont, qui a partagé sa carrière entre deux universités, Saint-Étienne, d'une part, et Lyon, où j'ai dirigé un laboratoire. Et devinez de quoi s'occupait ce laboratoire ? Il s'occupait de questions d'eau, essentiellement, mais également de questions de paysage. Voilà donc pour les choses très simples. Je dirais simplement ceci, c'est qu'à Saint-Étienne, on a fait un effort considérable pour apprendre aux gens autre chose que le métier de professeur. Comme nous étions une petite université, on a fait un effort particulier sur les systèmes d'information géographique, grâce à quoi nous avons placé la plupart de nos étudiants sérieux, ceux qui vont un peu au-delà de la licence, on les a placés dans des mairies, dans des sous-préfectures et surtout dans des bureaux d'études où les systèmes d'information géographique sont des instruments de travail précieux pour l'aménagement du territoire. Comme quoi, mesdemoiselles et messieurs, la géographie peut mener à tout, à condition, bien entendu, d'en sortir. Personnellement, n'étant pas très doué, j'en suis pas sorti, je suis géographe. Géographe, mais spécialisé, je ne sais pas pourquoi, et dès le départ, je me suis intéressé aux questions de l'eau. Peut-être parce que je suis né au bord d'un fleuve, la Meuse, où il y avait plein de... C'était formidable parce qu'il y avait des mariniers qui s'engueulaient entre eux, qui se battaient à coups de sabots, les Flamands contre les Francs-Quillons, qu'il y avait des boutiques dans lesquelles on vendait du genièvre de contrebande, bref, c'était merveilleux. Et quand j'étais en philo, je suis tombé sur Bachelard. Et l'eau de Bachelard ressemblait tellement peu à l'eau que je connaissais, que j'ai décidé d'approfondir la question, et voilà comment, entre autres choses, entre autres motifs, voilà comment on devient, par erreur, par hasard, je suis tombé dans l'eau, et je n'en suis pas sorti. Voilà. Alors, ceci dit, il y a une erreur. Je vois ici, avec stupéfaction, la question de l'eau en 2050. Il se trouve que j'ai fait une conférence sur ce thème à Bordeaux, et comme j'aime pas me répéter, ben, j'ai changé. Mais je me suis aperçu que ça revenait au même. Quand on parle des problèmes de l'eau actuels, on parle en fait des problèmes de l'eau dans l'avenir. C'est extrêmement simple. Vous avez en moyenne 18 ans. Quel âge aurez-vous en l'an 2050 ? J'ai calculé ça. Vous aurez en moyenne 57 ans. Votre retraite sera 67 ans. Par conséquent, vous serez en période active, que cela vous plaise ou ne vous plaise pas. Du moins, je vous souhaite d'être en période active. Et en même temps, ce sera quelque chose d'assez grave pour vous, dans la mesure où la question de l'eau va devenir quelque chose de tout à fait dirimant, c'est-à-dire très gênant, très divisé, très divisé entre riches et pauvres dans les années qui viennent. 2050, c'est après tout, c'est dans à peine 40 ans. Si vous savez comme c'est vite fait 40 ans, vous seriez tout à fait étonné. Bon, sur ce, vous voyez que j'ai mis... remarques liminaires, c'est-à-dire les remarques qu'on fait en introduction. Tout dire sur l'eau en 45 minutes, c'est un parcours de santé. Alors vous ne savez pas ce que c'est qu'un parcours de santé parce que le service militaire a été supprimé. Moi qui suis un grand vieillard qui vous cause, j'ai dû faire des parcours de santé, c'est-à-dire 3 km à toute allure avec un gros sac de 20 kg sur le dos, ensuite escalader une palissade, ramper sur un fil de fer barbelé, patauger dans je ne sais pas quoi, d'assez boueux, et à l'arrivée se faire engueuler par le type qui a dit « Monsieur, vous avez mis tant de temps, il faudra faire plus vite la prochaine fois, recommencez s'il vous plaît ». Voilà, c'est ça un parcours de santé. Alors, je fais donc un parcours de santé, je n'arriverai pas à tout dire, je compte sur vous pour me dire, un, que vous n'avez pas compris, deux, que vous n'êtes pas content, trois, que vous me posez des questions uniquement pour m'embêter. J'y compte bien. Voilà. Bon, alors, je m'occupe, vous venez de Venise, certains d'entre vous. Alors, je vous précise que Venise, je connais ça très bien. Je suis professeur associé à l'université de Padoue. J'ai présidé, j'ai fait la conférence introductive sur un gros machin qui se tenait à Venise où il y avait de l'eau. Mais enfin, l'eau de Venise, elle n'est pas propre, c'est de l'eau salée de toute façon. Moi, c'est Padoue, où il y a beaucoup d'eau propre, au contraire. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'eau douce, c'est vraiment très peu de choses par rapport à l'ensemble de l'eau. C'est 2,60%. Mais par rapport aux océans, donc les océans, ils font 97, c'est des broquilles. Mais ce qui est très important, c'est que les 2,60% d'eau douce sont en fait pour 97% sous forme de glaciers et d'inland 6. Le reste, ben, y a des lacs, il y a de l'eau dans les plantes, il y a de l'eau sous terre, et il y a de l'eau qui court, c'est celle que nous voyons, celle où il y a des poissons, celle où il y a de la vie. Et cette eau-là, elle représente 0,003% du flux mondial de l'eau. C'est pas beaucoup. Mais en même temps, c'est une erreur. J'entends souvent dire, mon Dieu, c'est terrible, il y a si peu d'eau, 0,03%, mais ça ne veut rien dire. En effet, l'eau qui est dans les glaciers, elle va mettre 1000 ans, ou 10 000 ans, ou 100 000 ans pour se recycler. L'eau qui tombe, l'eau douce qui tombe dans les océans, elle peut faire plusieurs millénaires avant de ressurgir sous forme d'évaporation. Il faut bien vous dire que les eaux qui plongent, qui remontent sur la côte bretonne, qui vont plonger sur le Spitzberg, prennent un chemin souterrain qui les remène vers l'hémisphère sud et l'Inland 6 des mers du sud. Alors ils mettront 2 ou 3 000 ans pour revenir en Bretagne. Donc vous voyez, c'est très rapide ce qui est de l'eau courante, puisque le Rhône, par exemple, une goutte d'eau qui tombe sur les Alpes suisses, mettra en moyenne 12 jours, et plus souvent 8 jours, pour arriver à la Méditerranée. Donc vous voyez que, en fait, il y a beaucoup plus d'eau qu'on ne le pense. Combien y a-t-il d'eau en moyenne montagne, en moyenne mondiale? Alors je vois qu'il y a 7000 mètres cubes par an, par habitant et par an. Alors ça a l'air d'être beaucoup. Mais cette eau est aussi mal répartie que possible. C'est-à-dire que l'Asie, comme vous voyez, il y a 61% de la population mondiale, mais seulement un tiers des ressources en eau. L'Amérique du Sud, au contraire, à le quart des ressources et 5 ou 6% de la population. 5% maintenant, parce que la population ne croît pas très vite. Alors, combien faut-il d'eau pour être heureux? Alors, je vous signale que, je vais dire, ces chiffres sont très discutables, mais des gens très bien ont décidé que, pour qu'il y ait de l'eau à satisfaction, pour les besoins humains, il faut en moyenne 1000 mètres cubes par habitant et par an. Et que, quand il y a moins de 1000 mètres cubes, il y a ce qu'on appelle une situation de stress, et quand on tombe en dessous de 500 mètres cubes, il y a une crise très grave. Alors il faut comparer ces chiffres avec quelques données. J'ai retenu la Norvège, vous voyez, 83 000 mètres cubes par personne et par an, c'est pas mal. Alors que les voisins juste à côté, en face de la Norvège, il y a le Danemark, c'est 1000 mètres cubes. En France, ça va pas trop mal. Vous voyez qu'on est à 3300 m3, on a trop d'eau. Or, vous voyez bien que c'est une proposition qui ne tient pas la route, c'est valable pour la France. Mais ici, dans le Massif central, on a tellement d'eau qu'on ne sait plus quoi en faire. Alors que dans la région du Var, faut faire venir l'eau de très loin parce qu'il n'y en a pas sur place. Or, en Auvergne, la population ne grandit pas très vite, que je sache. Alors que sur la Côte d'Azur, elle a tendance à grandir très rapidement, puisque c'est là qu'on entasse tous les retraités de France, de Navarre, de Belgique et de Russie. Eh bien, les besoins sont croissants et les ressources sont toujours aussi faibles, si bien qu'on fait venir l'eau de plus en plus loin, en la détournant, en privant les usagers normaux qui se trouvent à l'amont dans les montagnes. Voilà donc la question très simple. Alors, j'ai retenu ici deux données. Crise, 500 mètres cubes. Bien, alors l'Algérie. Eh bien, l'Algérie, il y a 436 mètres cubes par personne et par an. Vous connaissez l'Algérie? Non. Alors, détail, la moitié de la population a moins de 20 ans. Alors, comme malgré tout, ces gens vont avoir tendance à persister dans leur être et même à se reproduire, vous voyez qu'il y a bien des chances pour que dans quelques années, on en soit à 300 mètres cubes par personne et par an, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait dramatiquement insuffisant. Quant à la Libye, voilà quelque chose qui ne veut rien dire, il y a 100 mètres cubes par personne et par an. Or, c'est un pays où l'eau coule en abondance et où il n'y a pas de compteur, parce que l'eau étant un don de Dieu, on ne peut pas faire payer un don de Dieu. Alors le colonel Kadhafi, dans sa bienveillance, a donné de l'eau à tout le monde, mais d'où vient cette eau? Eh bien, elle vient des profondeurs du Sahara, et on ne sait pas en combien de temps elle sera épuisée. Alors le colonel Kadhafi, qui fait les choses en grand, a fait 2 aqueducs, qui sur 1300 km mènent l'un vers Benghazi, vous connaissez tous Benghazi ces jours-ci, l'autre vers Tripoli, Et que restera-t-il dans 7 ans dans un délai que tout le monde ignore? Alors les géologues de M. Kadhafi disent on en a pour 300 ou 400 ans. D'autres géologues malveillants, en particulier des Français, disent qu'il y en a peut-être pour 40 ans. Vous voyez l'imprécision qui règne là-dessus. Les régions en crise. Attention, regardez ici. On ne regarde pas grand-chose. Là. Je viens de me rendre, vous voyez. Ah, mais si, mais je peux voir là. Bon. C'est... Oui, ça aurait été mieux si... Vous ne voyez pas? Ça fait rien, je vous explique. Sur cette carte, vous avez ce qu'on appelle l'accessibilité à l'eau. Alors, si j'avais beaucoup de temps, j'avais mis 5, 6 cartes en plus, mais je n'avais pas beaucoup de place, j'en ai mis une. Alors, vous avez des gens qui ont beaucoup d'eau, et qui sont peu nombreux, et qui savent très bien l'utiliser. Vous voyez, c'est des gens violets. Les Canadiens, les Norvégiens, les Français. Tous ces gens-là ont de l'eau et du savoir-faire. Mais vous avez... dans l'Afrique équatoriale, beaucoup d'eau, quelque chose comme 30 à 40 000 mètres cubes par personne et par an. Mais les gens n'ont pas accès à cette eau par manque de technique, par manque également de besoin d'eau d'irrigation. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'ont pas besoin, mais ils ne savent pas cultiver la terre non plus. Alors le résultat, ils sont en situation dite critique. Et alors les gens qui sont en blanc, vous voyez le Sahara, le Moyen-Orient, tous ces gens-là, au contraire, ce sont des gens qui sont dans une situation critique, leur population croît très vite, et en même temps, leur quantité d'eau disponible vont en diminuant. Alors pourquoi elles vont en diminuant? Je reviens en arrière. À quoi sert l'eau? Alors, si j'avais parlé de ça il y a 10 ans, j'aurais mis irrigation 80%. Et vous voyez que maintenant on en a 70%. Et dans votre vieillesse, pas dans la mienne, bien entendu, dans votre vieillesse, ça sera sans doute 60%. Alors pourquoi? Tout simplement parce que actuellement, un tiers de la population mondiale vit dans des villes. Or, nous savons qu'en 2050, et j'aime bien cette date, 65% de la population mondiale vivra dans des villes de plus d'un million d'habitants. Naturellement, où sont ces villes? Beaucoup n'existent pas. Mais je prendrai une ville dont on parle beaucoup ces temps-ci, Abidjan. Alors, dans ma jeunesse, Abidjan, c'était... J'ai travaillé à Abidjan. Il y avait 150 000 habitants. Et c'était énorme, puisque la ville n'existait pas 30 ans auparavant. Alors actuellement, Abidjan, c'est 3,5 millions d'habitants. Or, j'ai beau être très âgé, c'était en 1960. On dirait qu'à l'époque, vous étiez plus que très jeune. Donc, entre 1960 et 50 ans, la ville est passée de 150 000 habitants à 3,5 millions. Vous voyez la vitesse à laquelle ça grandit. Le Congo, Kinshasa, qui était à 100 000, en est maintenant à 7 millions. Alors ce sont des pays pauvres, bien entendu, mais vous avez des pays riches comme Mexico. Mexico, où je n'étais pas dans ma jeunesse, mais où j'ai travaillé par la suite, Mexico c'était une ville d'1 million d'habitants. Et actuellement, Mexico c'est 28 millions d'habitants. Ce n'est pas la plus grande, c'est peut-être la plus grande ville du monde, on n'en sait rien, c'est peut-être Tokyo. Tokyo c'est 38 millions d'habitants, mais sur une superficie plus vaste. Vous voyez donc, c'est cette chose... L'irrigation va donc diminuer. Or, l'irrigation, elle produit 40% de la nourriture mondiale sur moins de 20% des terres cultivées. Autrement dit, l'agriculture pluviale, c'est un peu la loterie. Il y a trop de pluie et il y a une inondation, comme actuellement en Australie, où toutes les récoltes sont noyées. En Argentine, il y a une pénurie de blé et le blé va monter en prix parce qu'il a fait trop sec. Donc vous voyez, quand il n'y a pas d'irrigation, il n'y a pas de régularité. Et seule l'irrigation permet d'assurer des revenus continus du point de vue agricole. Alors vous voyez que la diminution de l'agriculture irriguée, ça pose quelques problèmes. Quant à l'industrie, 20%, elle ne bouge pas. C'est-à-dire que pour faire une tonne d'acier, il faut, dans les années 70, quand il y avait la réduction au coq, il fallait à peu près 6000 mètres cubes pour faire une tonne d'acier. Et maintenant, c'est à peine 1000 mètres cubes. Vous voyez, c'est donc quelque chose de très variable, que les besoins industriels, ils sont ajustables, les autres ne le sont pas. Donc, priorité aux villes, mais ça pose quelques problèmes, nous reviendrons sur ce point. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que la richesse et qu'est-ce que c'est que la pauvreté en eau ? Bien, j'ai pris deux exemples très contrastés. Un pays où il y a beaucoup d'eau, le Congo, Libreville. Le nôtre. Bon. Et d'autre part, Israël. Alors Israël, ben, il n'y a pas d'eau. Il y a le Jourdain, il y a les sources qui sont dans le Liban, sur le plateau qui normalement du Golan qui appartient à la Syrie, mais les Israéliens l'ont confisqué. Bref, les Israéliens arrivent péniblement à 480 mètres cubes par habitant et par an. J'ai fait ce calcul il y a moins de 8 jours, il est exact. Donc 500 mètres cubes, c'est la pénurie. Donc, ils sont en situation de pénurie. Mais c'est pire que ça, car 40% de leurs eaux sont collectées en dehors du territoire. Les sources du Jourdain, elles se trouvent au Liban et en Syrie, pour l'essentiel. Donc, vous voyez qu'ils sont dans une situation très grave. Or, assez bizarrement, bien qu'ils manquent d'eau, ils exportent beaucoup. Quand vous allez dans l'épicerie du coin, si vous achetez un avocat, vous avez une chance sur trois que l'avocat vienne d'Israël. Les citrons verts, qui sont un produit relativement rare, ça vient une fois sur quatre dans les magasins français d'Israël. Même chose pour les agrumes de haute qualité, pamplemousse, cèdre, etc. Donc ils ont de l'eau assez pour faire de l'agriculture. Mais en même temps, ils ont confisqué toute l'eau des nappes de Cisjordanie. Ça vous dit rien, la Cisjordanie, on verra ça tout à l'heure, on a une belle carte. Mais la Cisjordanie, c'est là où, normalement, c'est un territoire palestinien, mais les Israéliens, ils font des colonies, et ils ont un principe très net, les Palestiniens ont le droit d'avoir des puits à 6 mètres de profondeur, et les Israéliens, les Juifs exactement, ont le droit de pomper dans les nappes, c'est-à-dire à 700-800 mètres de profondeur, ce qui permet de pomper toute l'eau qui normalement devrait arriver à Gaza. De même, les rives de la mer Morte est alimentée par le lac de Tibériade. Or, le lac de Tibériade, c'est la frontière avec la Jordanie. Mais en 1954, les Israéliens ont fait fixer la frontière, non pas au centre du lac, mais sur sa rive orientale. De sorte que l'eau de Tibériade, au lieu d'être partagée entre la Jordanie et Israël, elle est toute à Israël. Donc finalement, Israël a un peu plus d'eau qu'on ne le pensait, surtout que on laisse très peu d'eau aux Palestiniens. La répartition, c'est, je crois, 750 mètres cubes pour les Juifs de Tel Aviv et un peu moins de 100 mètres cubes pour les Palestiniens. Alors, je vous signale un détail intéressant. L'hôpital de Gaza est absolument suroccupé par un hôpital de pédiatrie, un hôpital pour enfants. Et les enfants palestiniens, les enfants de Gaza, souffrent tous de calculs dans les reins parce qu'ils boivent de l'eau contaminée, celle que leur laisse Israël. Contaminée, c'est très simple. Comme les nappes sont déprimées, ils n'ont que l'eau des nappes. L'eau des nappes est exploitée par Israël par des pompages à l'amont. La mer envahit la nappe basse et ils boivent de l'eau plus ou moins salée. Et le sel reste dans leurs reins. Et les enfants, ben, ils ont un taux de mortalité tout à fait intéressant. Voilà, je n'insiste pas sur ce détail. Alors, abondance. Alors, les gens du Congo, ben, ils ont 50 000 mètres cubes par personne et par an, c'est bien, plus que les Canadiens. Mais le fleuve Congo roule à côté de chez eux, et pas de pompage, pas de bon ravitaillement en eau, sauf pour l'ambassade et les quartiers riches. À Libreville, il y a une station de pompage dans les eaux du Congo, une station d'épuration, et elle sert aux ambassades et aux quartiers des affaires. Alors les gens de Libreville, ben, ils vont pomper avec des éricans, avec des petites pompes, dans le fleuve directement. Voilà. Alors leur santé n'est pas extraordinaire. Amibias, c'est la moindre des choses, mais également Marie, la fièvre jaune. Le taux, l'âge moyen au décès à cause de l'eau, est inférieur à 35 ans. malaria, bilharziose, cholestéra et amarylle. La bilharziose, vous connaissez ça? On en reparlera. C'est une maladie très sympathique. J'aime beaucoup la bilharziose. Ça, on l'avait vu. Voilà. Ça, c'est, vous voyez, une cartographie du professeur Bêtement. Comme vous voyez, c'est une cartographie parfaitement dégueulasse. Je suis géographe, spécialiste des cartes, mais j'ai toujours à ma disposition, quand j'étais en activité, un atelier de cartographie. Mais maintenant qu'ils m'ont mis à la retraite, malgré mes protestations, je fais mes cartes moi-même et ça se voit. Alors, la question est la suivante. Il faut mettre cette carte en relation avec celle que je vais montrer tout à l'heure, qui n'était pas très nette. Au moins, celle-là, elle est visible. Alors, vous avez des régions où la population croît à une grande vitesse, elle double en 20 ans ou 25 ans, et finalement, eh bien, il faudrait, pour tout ce qui est en noir, que la production agricole puisse croître de 4% par an. Or, le taux de croissance, c'est le. Alors, il y a un de ces pays où j'ai pas mal travaillé, c'est le Burkina Faso. Et dans le Burkina Faso, ben, c'est pas compliqué. Il y a de l'eau. Il y a même des grands ouvrages hydrauliques. Et on ne sait pas quoi en faire. On a essayé de faire de l'irrigation pour le riz. Ça marche pas très bien. C'est-à-dire, ça marche un certain temps, mais quand les pompes sont cassées, ben, il n'y a pas de provision pour les remplacer, les renouveler le matériel. Donc, vous voyez, quelle est la croissance de la production agricole? 0,1-0,2% par an. Il y a une croissance. Quelquefois même 1%, en particulier dans le Mali. Dans le Mali, c'est 2% même. Mais la population du Mali croît de double en 20 ans. Donc il faudrait que ça grandisse à une vitesse extraordinaire. Alors il y a des pays qui sont moins désavantagés. Alors vous voyez en particulier les pays du la Libye. Bon, c'est pas mal. L'Algérie. Ben, plus ou moins bien, ils arrivent, ils espèrent qu'il y aura une décroissance de la démographie, on fera moins d'enfants, et en même temps, on utilisera mieux l'eau. À mon avis, ils ont beaucoup à faire, mais enfin, ils arriveront peut-être. Ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que tous les pays qui sont en noir et en ocre s'en vont vers l'année 2050. Tiens, on retrouve comme par hasard 2050, ça va. Eh bien, ces pays-là seront dans une situation catastrophique sur laquelle je reviendrai tout à l'heure si ça ne vous ennuie pas. Bon, alors, est-ce qu'on peut améliorer la relation entre les hommes et l'eau? Alors, bien sûr, on fait des barrages. Alors, les barrages, pendant longtemps, et même encore maintenant, il y a des moments où je suis pour les barrages. J'ai dû faire la préface. Un ouvrage barrageux il y a de ça quelque temps, et j'ai dit mon embarras. Parce que, d'un côté, les barrages sont la pire des choses. Alors, vous voyez que j'ai noté sur l'annuaire des grands barrages qui existent, le nombre de barrages, de grands barrages, c'est-à-dire plus de 17 mètres de haut. Eh bien, il y en avait 5000 en 1950, et maintenant il y en a 45 000, dont je vous signale 22 000 pour la Chine à elle toute seule. Voilà. Alors, les barrages, il faut voir ce que c'est. Comme vous êtes français, vous pouvez connaître le plus grand barrage français. Ils ne le connaissent pas. Qui connaît le plus grand réservoir français? Personne. Je m'en doutais. C'est Serre-Ponçon dans les Alpes. Alors, on en fait tout un plat. Il y a une station, Chavine, sur laquelle il y a des canoës, il y a des trucs, la planche à voile, il y a de tout. Mais ça fait 1 km³. Or, les grands barrages, eh bien, le barrage de la Cosombo, ben, il fait 170 km³. Vous voyez, moi j'ai mis Bratsk, c'est en Sibérie, 169 km³. C'est un des plus grands. Kabora-Bassa étant presque ça, c'est 155 km³. Ben, vous voyez, notre grande mer intérieure de Serre-Ponçon avec son petit km³, elle a l'air pas du tout au point. Alors pourquoi est-ce que les gens sont contre les barrages? Pour de nombreuses raisons. Il y en a une que j'ai beaucoup appréciée, précisément à Abidjan, où on a fait le barrage de la Cosombo. Et pour faire le barrage de la Cosombo, eh ben, on a mis 500 000 personnes à la porte. C'est-à-dire leurs villages ont été ennoyés. Alors que deviennent ces gens? On les appelle les déguerpis et ils font bien ce qu'ils veulent. Même chose au Brésil. les grands barrages brésiliens. Actuellement, si vous suivez les journaux de temps à autre, on voit que les Indiens des rivières affluentes de l'Amazone font des manifestations pour essayer d'arrêter les grands travaux. Et évidemment, la seule compensation qu'on leur demande, c'est d'aller en ville. Alors, n'ayant rien d'autre à faire, mais ils iront aller en ville. Alors, ils passent directement de la chasse à la sarbacane, de menus composés de lézard et d'iguane à la bouillie de manioc. Ça fait des prolos. Bon, alors, on fait également, quand il n'y a pas d'eau là où il faut, on peut faire des transferts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un transfert ? En France, on en a un qui s'agite actuellement, c'est pas près, loin d'ici, près de Nîmes. Il y a une prise d'eau sur le Rhône qui s'en va ravitailler la ville de Nîmes. Elle est énorme, cette prise d'eau. Elle peut véhiculer 75 mètres cubes secondes. Et en fait, Nîmes demande 4 mètres cubes secondes. Alors, il y a du rab, si j'ose dire. Et le Rhône roule 1700 mètres cubes secondes. Alors, on pourrait donc alimenter Barcelone. Voilà un transfert d'eau. Donc, vous prenez de l'eau dans le Rhône, vous le transférez dans l'Èvre, et ça fait évidemment un transfert. Les plus gros transferts en cause actuellement se trouvent dans deux endroits. Le Canada, qui s'entend très bien avec les États-Unis, a une énorme réserve d'eau potentielle près de la baie d'Hudson, à ce qu'on appelle la Grande. La Grande, c'est une usine hydroélectrique dans laquelle passent chaque jour 3500 mètres cubes secondes. Et les gens du Texas disent « Oh, comme il serait facile de faire un tuyau qui partirait des grands lacs canadiens, qui aboutirait dans les grands lacs de Chicago et autres, et qui de là serait relayé vers le Texas, qui manque d'eau. » Alors l'ennui, c'est qu'il faudrait simplement pour ça des ponts, 7 usines nucléaires pour remonter l'eau et la redéverser vers le Texas. 7 usines nucléaires, et puis surtout, un détournement complet des eaux du Canada. Alors pour le moment, les Canadiens résistent, mais comme il y a un truc qui s'appelle l'ALENA, l'Union économique d'Amérique, eh bien, du Nord, eh bien, je crois qu'ils vont perdre et que les États-Unis vont pouvoir se servir. Alors il y a un autre endroit où c'est intéressant, c'est évidemment la mer d'Aral. On pourrait faire... Il n'y a pas de tableau. Alors si j'avais un tableau, je vous ferais un croquis merveilleux, un peu dégueulasse, mais j'aime comme ça. On voit une Sibérie. Alors vous avez un fleuve qui s'appelle l'Ob Irtych, il fait un coude formidable et la mer d'Aral est tout près, à peine 1000 km. Donc, on fait un barrage et on renvoie, avec une pompe, bien entendu, pour passer le seuil, on renvoie l'eau de l'Ob Irtych qui ne sert à rien, elle va dans le Grand Nord. On la renvoie en direction de la mer d'Aral qui est regonflée, qui est pleine de poissons, il y aurait même tellement d'eau qu'on pourrait faire un canal qui s'appelle l'Ouzboï qui irait vers la mer Caspienne. Alors l'ennui, c'est que si ce canal, dont on parle depuis les années 30, et dont on parle à nouveau en ce moment, pour des raisons politiques dont je reparlerai si on ne m'arrête pas avant. Bon, bien, ça veut dire que l'eau n'allant plus vers la mer Arctique, le Gulf Stream pourrait remonter et faire fondre encore plus vite les glaces de la calotte arctique. Donc, danger, aggravation des tendances actuelles. Quant au dessalement, oh c'est formidable le dessalement, actuellement vous avez une usine en Arabie Saoudite qui produit 60 millions de mètres cubes par an, c'est un véritable fleuve. Ben, c'est bien, mais quand vous dessalez de l'eau, le sel retombe dans la mer. C'est bien que la salinité aux environs de ces stations de pompage passe de 40 pour 1000 à 200 pour 1000, et que ça tue tout, la faune, la flore. Donc il y a un désastre écologique extraordinaire. Alors, si on ne veut pas toucher la nature, il y a des correctifs économiques, et en particulier ce qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est pas beau ça, l'eau virtuelle. Vous prenez un pays comme le Japon. Il est riche, il a très peu de terres, et il peut payer n'importe quoi. Il importe donc du riz, et quand tu importes une tonne de riz, ben tu importes en fait 4 tonnes d'eau qu'il a fallu pour le produire. Donc, transférer du riz, c'est transférer de l'eau d'un pays qui en a trop vers un pays qui n'en a pas assez. C'est bien, parce que ces gens peuvent payer. Mais un autre pays qui manque terriblement d'eau, de place pour faire de l'eau, autre pays lequel je pourrais prendre, j'en ai tellement à ma disposition que Ah ben l'Égypte, tenez, voilà. L'Égypte, dans ma jeunesse, produisait 80% du blé qu'elle consommait. Et actuellement, ben, comme la population a doublé deux fois depuis ma jeunesse, tous les 20 ans, bien, au lieu d'être 30 millions, ils sont 90 millions. Et ils produisent très exactement maintenant 37% du blé qu'ils consomment, les malheureux. Alors, il faut donc qu'ils importent du blé, c'est-à-dire de l'eau virtuelle. Seulement, ils n'ont rien pour la payer. D'où vient leur blé ? Il vient leur blé, il vient essentiellement des États-Unis. Un peu de la France, un peu du Canada. Mais les États-Unis savent très bien que jamais l'Égypte ne paiera le blé qu'elle importe, donc l'eau qu'elle importe. Et comme elle ne peut pas la payer, il faut qu'il soit bien gentil avec ce que demandent les Américains. Voilà pourquoi, quand vous êtes à Alexandrie, on voit toujours à l'horizon un cargo chargé de blé. Un, pas deux. Si jamais il y a un ennui, si l'Égypte n'est pas gentille, en particulier avec Israël, le cargo ira voir ailleurs qu'en Égypte. Donc l'Égypte est sous tutelle, elle est totalement dépendante parce qu'elle est pauvre. Oui, voilà où est un des problèmes de l'eau. Les riches peuvent dominer les pauvres parce qu'ils contrôlent, ils ont de l'eau et ils ont des moyens que les autres n'ont pas. Alors, j'ai mis également les riches font leur marché. Là, j'ai une superbe carte pour ça. Oui, elle est lisible, ma carte ? Non, je peux la décrire. J'ai trouvé ça dans Le Monde, il y a de ça un mois, mais comme vous ne lisez pas Le Monde, vous n'avez pas fait attention à cette merveilleuse carte. Alors, que dit, t'as fini là-bas de regarder dehors. Je relève les noms. Bon. Ah, au moins, je t'aurais fait rire, et moi, je suis content. Bien, alors, que disais-je ? Je suis. Bon, alors, les riches disaient, je fais leur marché. Bien, le Japon, qui n'a pas de terre, le Japon qui en a marre de payer du riz aux Américains, le Japon a décidé tout simplement d'acheter des terres à Madagascar et en Tanzanie. Et alors, le résultat, c'est qu'ils prennent les meilleures terres des Malgaches, qui ne savent pas bien s'en tirer, qu'ils refoulent les paysans Malgaches dans les endroits où il n'y a pas d'eau, et qu'ils occupent la place. Alors là, c'est grave, mais il y a beaucoup plus grave. Il y a le cas de la Libye. La Libye, elle pourrait avoir de l'irrigation, mais les Libyens, ils n'aiment pas bien irriguer, pour se pencher. Alors, ils ont employé pendant un certain temps des Maliens. Et puis, ils ont une idée merveilleuse, c'est d'acheter des terres au Mali, mais ils en achètent un sacré paquet. Ils en ont acheté pour le moment, il y a un plan d'irrigation de 250 000 hectares. Ça vous dit rien, c'est un peu plus grand qu'un département. Voilà. Alors donc ils achètent des terres au Mali, ils achètent l'eau du Niger, et premièrement, ils privent d'eau les gens en aval, en particulier le Burkina Faso, et deuxièmement, ce qui est beaucoup plus grave, ils mettent les paysans maliens à la porte en leur disant « débrouillez-vous ». Que font les paysans maliens ? Ils n'ont pas d'autre source que d'aller voir à Bamako à manger le mil qu'on leur distribuera gratuitement. Voilà donc, quand je dis les riches font leur marché, vous voyez que c'est partout. La Corée, la Chine, le Japon, l'Arabie Saoudite, tous ces pays achètent des terres. Alors j'ai vu des choses tout à fait étonnantes en Égypte, sur un canal qui se trouve dans le Delta, où la terre est très rare, la terre est très demandée. Les gens font des impossibles pour avoir deux récoltes de riz par an. Un émir a acheté 10 000 hectares. Et sur ces 10 000 hectares, qu'est-ce qu'il fait l'émir ? Il fait du foin. Parce qu'il a des chevaux en Arabie, et que les chevaux, ça mange du foin. Alors vous voyez, là où on pourrait nourrir de l'Égyptien, on nourrit les chevaux de l'émir. Alors le plus drôle, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est quand même pas à côté de l'Égypte. Et on est dans un pays d'islam, nous sommes tous frères, et c'est rien très bien comme ça. Ils vont me dire que je suis raciste d'ici peu. Enfin. Bon, alors, je vais vous citer un bel exemple d'inégalité, c'est Israël et la Palestine. Alors vous voyez des pays où il y a des tensions, des pays de forte tension. Bon, alors on va prendre ça sur des cartes, si vous voulez bien. J'ai encore combien de temps ?
Un quart d'heure.
Un quart d'heure, c'est formidable, j'en ai trop. Bon, alors vous lisez ça, mais maintenant je reprends ça sur des cartes. Voilà. Les petites croix, là, vous avez d'abord là-dessus des régions en rouge. Les régions en rouge, c'est celles où la question de l'or sera dramatique en 2050 précisément. Tiens, on retombe sur 2050, tant mieux. Alors vous voyez que c'est tous les pays du Maghreb. Un petit peu moins pour le Maroc. Mais cela veut dire que dans tous ces pays en rouge, l'Arabie, la Corne d'Afrique, Djibouti, le Pakistan, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, la Mauritanie, tous ces pays-là auront moins de 500 mètres cubes d'eau par personne et par an en situation de détresse et une population en voie d'accroissement rapide. Alors le Maroc a un peu plus d'eau, tant mieux pour lui. L'Inde, elle se trouve dans une situation entre 1000 mètres cubes et 500 mètres cubes. Dans 2050, ça pourra peut-être aller. Mais regardez l'Asie centrale, là, en jaune. Vous voyez, la zone en haut. Mais même, regardez l'Europe, si vous avez de bons yeux. Là, ici, l'Espagne, le sud de l'Espagne, aura en 2050 quelque chose comme 400 mètres cubes d'eau par personne et par an. Mais que vois-je ici? Horreur. Le Danemark, l'Allemagne seront dans une situation de semi-pénurie. Ah, je vous ai tassé la baraque là ici, excusez-moi. Je vous avais dit que ça serait pas sérieux, cette exposé, monsieur. Bon, alors, donc, vous voyez qu'il y a pas mal de régions qui sont dans des situations, je dirais, inquiétantes. Même l'Allemagne, vous voyez, c'est tout à fait étonnant de penser qu'en 2050, les Allemands, ils chercheront de l'eau, à tel point qu'ils seront obligés de dessaler l'eau de la Baltique ou de la mer du Nord pour ravitailler leur grande ville comme en vous. Voilà où ils en sont, les Allemands. On ne le croirait pas, mais c'est comme ça. Parce que les ressources diminuent et la population augmente. Bien, alors, il y a surtout des petites étoiles mal foutues. Toutes ces étoiles représentent des crises possibles, potentielles. On peut les prendre les unes après les autres. Il y a une belle étoile sur la Syrie, la Sibérie, je vous en ai parlé. C'est là où il y a la question de la mer d'Aral et de l'Ob. Là, ici, à la frontière du Canada et des États-Unis, vous voyez qu'il y a également le problème du transfert. Alors, cette carte est très mauvaise, mais l'eau de l'avenir serait prise dans cette région-là, transférée 2000 km seulement dans les Grands Lacs, et des Grands Lacs, elle irait vers le Midwest et le sud des États-Unis. Alors, vous voyez, c'est là, ici, les Canadiens ne sont pas d'accord. J'ai mis une autre croix crise sur l'Ouest américain. Alors l'Ouest américain, premièrement, il y a de l'eau, mais ils ont tellement pompé qu'elle ne se renouvelle pas. Deuxièmement, actuellement, la ville de Las Vegas est la ville du monde qui consomme le plus d'eau par habitant et par an. 1000 mètres cubes. Nous, en France, on est à 400 mètres cubes. 1000 mètres cubes par habitant et par an. Alors où vont-ils la chercher? Ils vont la chercher dans le Colorado. Et le Colorado, qui a été, au début du XXe siècle, un endroit de colonisation agricole extraordinairement dynamique, actuellement, vous avez des courtiers qui rachètent les droits d'eau, de sorte que certains endroits que j'ai connus une première fois, en particulier à Los Angeles également, c'est à Los Angeles qui a vu ça, dans un premier temps, parce que comme je parle toujours trop d'eau, j'ai écrit une géographie des États-Unis en deux volumes que personne n'a lu, mais ça ne fait rien. C'est vendu en... Il y a eu trois éditions quand même, j'étais content. Bon, c'est pas un succès de vrai, c'est... l'édition universitaire c'est 5000 exemplaires maximum, le prix Goncourt c'est 75 000, bon, c'est comme ça. Alors, la région de Los Angeles a été décrite par Stevenson en 1880 comme un désert. Après, il y a eu les captages d'eau par Roosevelt et on a transformé le sud californien en une orangerie et une région de vigne pour faire des raisins secs, extraordinairement brillante et dynamique. Et comme Los Angeles est passé de moins de 20 000 habitants en 1880 à 9,5 millions actuellement, eh bien, pour amener l'eau à Los Angeles, on va la chercher jusqu'à 1000 km. Et entre-temps, on rachète les droits d'eau des agriculteurs. C'est bien que toute cette région prospère, d'un seul coup, redevient ce qu'elle était, un désert. Alors, c'est marrant parce que vous voyez des villes qui étaient des villes agricoles, qui n'ont plus aucune raison d'être et qui sont complètement vides, qui sont habitées par des gens qui n'ont pas le moyen de s'acheter une maison, qui occupent les lieux. Et on ne dit rien. Ben, ils n'ont pas d'eau. C'est notre affaire. Alors, j'ai mis une croix, je ne peux pas les posséder, puis il y en a une que j'aime bien ici, c'est celle qui est entre le Brésil et l'Uruguay. Alors, c'est vraiment un bon truc, parce qu'on a fait un énorme barrage, et ce barrage, c'est les chutes de l'Iguassu, et sur la frontière entre l'Uruguay et le Brésil. Alors on a dit, ben on fait un grand ouvrage à frais communs. Le Brésil paye la moitié, l'Uruguay la moitié. L'Uruguay ne pouvait pas payer, c'est un pays pauvre. Qu'à cela ne tienne, le Brésil leur a prêté des sous. Mais après, le Brésil a décrété un prix de l'électricité très bas. Ça fait que les malheureux, ils doivent de l'argent au Brésil, mais ils vendent de l'électricité à perte. Alors ils sont sous la dépendance du Brésil, et les Brésiliens trouvent ça extraordinairement amusant. Alors, la prochaine guerre de l'autre, c'est là, au sud de l'Égypte, vous avez une jolie croix, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie et le Soudan. Alors, ces deux pays, à l'amont du Nil, ont le droit de prendre l'eau, depuis très exactement 3 mois. Depuis un accord qui a été passé en novembre, fin novembre, à Addis Abeba. Naturellement, les Égyptiens sont pas d'accord parce que on fait une nouvelle répartition des eaux du Nil et on va confisquer l'eau des Égyptiens. Les Égyptiens auraient bien fait la guerre, mais malheureusement, les États-Unis les tiennent par la gorge avec leur histoire de ravitaillement. Si bien que ils sont très malheureux, les Égyptiens. Là ici, c'est la prochaine, c'est une guerre possible, ça. Entre la Syrie, Israël, le Liban, guerre de l'eau, mais ça c'est compliqué. Là, voilà une guerre que j'aime bien. J'ai pris la peine de refaire une carte, j'ai mis la frontière en rouge. J'ai eu du mal techniquement à faire ça, vous vous rendez pas compte de ce que c'est que de travailler sur Photoshop. C'est dur. Hein? Travailler sur Photoshop, madame? Non. Moi, je travaille sur Photoshop et j'y comprends rien. Alors, je pleure, mais j'y arrive quand même au bout d'un certain temps. Alors, vous voyez, il y a au nord de cette ligne, là, voilà, tap, tap, c'est la Turquie. La Turquie a un plan merveilleux qui s'appelle le GUD, Anatolou, le plan d'irrigation de l'Anatolie. Alors, c'est un plan très intelligent parce qu'il concerne essentiellement le pays kurde, le Kurdistan turc. Or, les Kurdes, ce sont les méchants. Ils veulent pas parler turc, ils veulent parler l'arabe. Au lieu d'être sunnites, ils sont chiites. Bref, ils ont tout le tort, et on leur fait comprendre. Il y a donc une guerre permanente. Mais si on fait des barrages dans leur vallée, on les met à la porte de leur vallée, ils seront obligés d'aller sur le plateau où il n'y a rien, donc ils iront dans des villes, et on pourra les surveiller plus facilement. Vous voyez comme quoi l'eau est un instrument merveilleux pour avoir une paix sociale et économique. Alors, on retient l'eau. Vous voyez, il y a des barrages, des petits carrés. Ce sont des barrages, dont le grand barrage Atatürk. Alors le barrage Atatürk, je l'aime bien, il n'est pas un grand barrage, 40 km cubes, 40 fois 7 ponçons. Mais le jour où les Turcs l'ont mis en eau, pour bien faire comprendre de quoi ça causait, ils ont purement et simplement barré l'écoulement de l'Euphrate. Et le temps d'emplir le barrage, ça a mis 8 mois. Et pendant 8 mois, il n'y a plus une goutte d'eau sur tout le long de l'Euphrate, c'est-à-dire en Syrie et en Irak. Alors l'idée des Turcs, c'est que l'eau de la Turquie appartient aux Turcs. Et que ce qui se passe à l'aval ne les regarde pas. Simple détail. Il y a de ça 30 ans, les Turcs n'irriguaient rien. Et ils ont un plan d'irrigation de 2 millions d'hectares. En bas, il y a l'Irak, qui est l'inventeur de l'irrigation depuis la Mésopotamie, moins 6000 ans avant Jésus-Christ. Bon. Alors vous voyez qu'il y a là quand même quelque chose d'extraordinairement violent. Que ces gens qui confisquent l'eau brutalement comme cela, sans demander le reste, mais ils gagnent à tous les coups. Pourquoi? Parce que la Turquie, c'est un des meilleurs soldats de l'OTAN, et que l'Irak, jusqu'à cet an dernier, c'était les méchants. Alors, les Américains et l'ONU n'ont jamais rien dit, parce que, en prenant l'eau, on faisait du tort aux méchants Irakiens, et on faisait du bien aux gentils Turcs. Voilà ce que j'appelle les guerres de l'eau. On les voit pas, mais les Irakiens, un jour ou l'autre, prendront les armes pour se battre avec les Turcs. Et malheureusement, la meilleure armée des deux, et de très loin, c'est l'armée turque. Voilà qui nous promet des jours merveilleux. Ah, voilà, je termine là-dessus. Hein. Le barrage, de Faraka. Oh, que c'est un beau barrage. Alors là, celui-là, je l'aime bien. Il est tout petit. Il est sur la frontière entre l'Inde, d'un côté, à ma droite ou à votre gauche, et le Bangladesh, à votre gauche et à ma droite. Bon, alors, il y a ici une branche du Gange, et juste à la frontière, pile à la frontière, il y a un barrage. Barrage de Faraka. Alors, ce barrage de Faraka, c'est un très bon barrage. Quand il n'y a pas assez d'eau, il dérive l'eau dans le vieux bras de l'Ougli, le Gange, qui est en train de s'ensabler. Alors donc, les gens du Bangladesh n'ont pas d'eau quand ils en veulent, et ça profite aux Indiens. Bon point. Mais supposez qu'il y ait une crue du Gange, comme c'est arrivé en 2004. Eh bien, c'est très simple. On ferme le barrage du Baraka côté indien et on laisse toute l'eau de crue aller chez les gens du Bangladesh. Vous voyez, le fort indien et le faible Bangladesh. Et le Bangladesh, ben, il peut rien dire parce que le barrage, il est dans l'Inde. Alors, il proteste. Et les Indiens disent, mais oui, c'est très intéressant, vous devriez faire appel à l'ONU. Dans une trentaine d'années, on en reparlera. Vous voyez pourquoi maintenant je parle de guerre de l'eau. Ah ben, il n'y a plus rien. Aurais-je fini cet exposé? Non, mais vous voyez, c'est la multitude des problèmes que j'ai évoqués en trois petits quarts d'heure. Problème de pénurie, et je n'ai pas tout dit. Je prendrais simplement mon fleuve à moi, le Rhône. J'ai consacré une thèse en 500 pages, 700 pages, que personne n'a jamais lu, sur le Rhône. Bien, le Rhône, depuis quelque temps, ben c'est très simple, il y a des usines qui faisaient du PCB, qui ont déversé des résidus de PCB dans le fleuve, et ce PCB a tapissé le fond du fleuve d'un bout à l'autre, de sorte que les poissons du Rhône sont maintenant incomestibles, parce qu'ils ont mangé du PCB. Défense de pêcher dans le Rhône. Enfin, vous pouvez pêcher et rejeter le poisson. C'est très simple. Or, dans quelques années, l'eau du Rhône sera peut-être plus consommable, toujours à cause du PCB. Ou pour la purifier, ça va coûter très cher. Donc, vous voyez, même chez vous, les gens de Limoges, par exemple, on leur dit rien. Ils sont un peu simples et naïfs sur les bords. Mais à l'amont de Limoges, il y a eu des mines d'uranium. Ces mines d'uranium ont été abandonnées. On s'en est plus occupé. Et maintenant, elles distillent soigneusement des résidus d'uranium. Elles sont légèrement radioactives, mais on n'en parle pas. C'est en dessous des seuils définis comme étant critiques. Malheureusement, ça peut très bien s'accumuler. Où est le problème? Donc, vous voyez, je termine en parlant d'un problème massif central. Il y en a également sur la Loire, à la Prugne. Donc, je vous laisse sur ces perspectives encourageantes. Et je serai heureux de répondre aux questions que vous ne manquerez pas de me poser. Allez.